les Corinthiens, les Philippiens avaient des problèmes, les Corinthiens aussi, mais les Philippiens avaient un problème de dispute, de compétition. Il y avait deux dames qui se disputaient, et puis, bon, la dispute peut-être n'était pas forcément une dispute, elles ne criaient pas, mais je pense qu'elles étaient en désaccord profond. Et dans l'église, eh bien, il y avait le parti des Vaudis et il y avait le parti de Saint-Ich. Et le pasteur, eh bien, était là, sans rien faire. Et c'était une erreur de sa part. Je crois que si le problème a duré, c'est que le pasteur ne remplissait pas son rôle de pasteur et qu'il ne faisait pas ce qu'il fallait. Voilà. Le rôle du pasteur, c'est de maintenir l'unité du corps de Christ et de, quand il y a un problème, eh bien, de veiller tout de suite à se résoudre. Et il y a des problèmes qui se résolvent en 1 heure de discussion et de confrontation avec les personnes. Eh bien, elles se mettent d'accord parce que finalement, il y a des incompréhensions. Et c'est ce qui est dit ici dans ces deux versets, 15 et 16. C'est en fait Paul, dans un petit sous-entendu, eh bien, laisse entendre la chose. C'est d'abord, il dit une chose, nous tous qui sommes parfaits. Alors bon, en réunion de jeunes, on a étudié un petit peu ce que c'était que parfait. Parfait ne veut pas dire qu'on ne tombe jamais, mais parfait veut dire accompli. C'est-à-dire que l'adulte est un homme parfait ou une femme parfaite, parce qu'il est à sa stature complète. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne tombe pas malade, qu'il ne peut pas mourir, qu'il ne peut pas avoir une maladie ou des choses comme cela. C'est l'état de perfection dans la Bible, eh bien, c'est un état accompli. Un bébé, quand il naît, il est parfait, parce qu'il naît accompli. Il est arrivé à son stade de perfection en tant que bébé, de nourrisson. Voilà. C'est ça, parfait. Mais après, il n'est pas parfait en tant qu'adulte. Non. Il est parfait en tant que bébé. C'est à son niveau qu'il est parfait. Donc, quand on grandit dans notre vie chrétienne, eh bien, nous devons, non, nous marchons de perfection en perfection. Comme un enfant grandit. Et il est de perfection en perfection. N'attendez pas qu'un adolescent soit un adulte. Soit un adulte, excusez-moi. C'est si vous attendez que ce soit un adulte, vous serez déçu. Et vous allez dire, ah, ces adolescents, ils font encore une crise d'adolescence. Hein? Mais pourquoi? Parce que vous attendez qu'un adolescent soit un adulte et il ne l'est pas. Et il ne le sera pas tant qu'il ne sera pas un adulte. Il est un adolescent, il est quelqu'un qui se cherche, qui ne sait pas où se positionner. Il n'est plus un enfant, il n'est pas un adulte. Il est dans une situation intermédiaire qui est très ambiguë et c'est très difficile pour lui de vivre cette situation. Et les parents, eh bien souvent, se révoltent et parlent mal et durement et tout cela. Mais en fait, ça aggrave le problème parce que un adolescent qui ne sait pas où il est et qui entend des réprimandes sait encore moins où il est. Il est encore plus perdu. Et c'est donc un grave problème, c'est de mettre la perfection au niveau où elle ne se trouve pas. C'est la perfection, vous ne pouvez pas attendre qu'un jeune chrétien soit un adulte dans la foi. Laissez-lui vivre sa vie, sa jeunesse chrétienne, son enfance chrétienne, sa jeunesse chrétienne, et il va y avoir des conflits, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments de questions. Il y avait des moments de remise en question même, et beaucoup de choses qui se passent et qui, je ne dirais pas que c'est normal, mais c'est un processus logique, au moins. Et on doit accepter que les autres sont différents et qu'ils n'arrivent pas au même moment à la maturité que nous. Et c'est ce que Paul dit, hein, seulement où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Alors c'est vrai que il y a certains qui vont vous dire, oui, mais dans cette situation-là, la Sainte-Seine, moi, je préfère qu'elle soit prise au début du culte. D'autres vont dire, non, mais tu rigoles ou quoi? Les disciples ont pris la Sainte-Seine à la fin du repas. Ça se prend à la fin du culte. Et puis, voilà. Et même un jour, je me suis rendu compte qu'il y a deux coupes. Je ne sais plus, je pense que c'est dans Luc. Il y a deux coupes. Il y a une coupe qui est servie en début du repas. Et une coupe qui est servie en fin de repas. Et le Seigneur rompt le pain au milieu, entre les deux coupes. Ah, problème. Voilà, je vais innover, hein. Je vous donne des idées de. On va voir maintenant deux coupes. Il y a une coupe de début de Sainte-Seine, une coupe de fin de Sainte-Seine. Et il y a des personnes qui s'achoppent sur des choses de ce genre. Alors vous rigolez, c'est puéril, c'est enfantin. Mais justement, nous ne sommes pas tous des adultes. Nous ne sommes pas tous des adultes. Il y a des gens qui restent enfants, chrétiens, très longtemps. Et ils ont besoin que l'on ait de la patience avec eux et que l'on prenne le temps de parler avec eux et de leur expliquer. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de douceur de Christ. Nous ne sommes pas tous parvenus au même point, nous ne sommes pas tous au même niveau. C'est ce qui est parfait pour un n'est pas parfait pour une autre personne. Il faut bien bien faire attention. Paul dit, nous tous qui sommes parfaits, c'est-à-dire nous, non pas qu'ils ne tombent jamais, qui ne se sont jamais, qui ne s'éloignent jamais du Seigneur, mais tous ceux qui ont la stature de Christ. C'est là qu'est la perfection ultime, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le but vers lequel nous tendons. Après, il y a des progrès, il y a une croissance, et à chaque niveau de croissance, on est parfait. Mais à ce niveau-là, c'est celui que l'on cherche à atteindre, et c'est celui dont Paul parle. C'est la stature parfaite de Jésus-Christ qui est développée dans l'épître aux Colossiens. Donc Paul ne prend pas la peine d'en parler trop. Il a beaucoup parlé, hein, moi aussi j'ai beaucoup parlé sur les quelques versets 7 à 14. C'est ce qui correspond aussi à la stature parfaite de Jésus-Christ, mais il y a d'autres choses à dire dans Colossiens. Mais c'est cette stature parfaite de Jésus-Christ. Il dit nous sommes parfaits en Christ, parce que c'est Christ qui est notre perfection. C'est pas que je ne tombe jamais. C'est que Christ est ma justice, Christ est ma force, Christ est ma joie, Christ est tout ce dont j'ai besoin. Voilà, alors Paul peut dire, je suis parfait en Christ. Donc il ne met pas Christ, mais Christ est sous-entendu. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Hein? Gardons que nous marchons, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est le verset 14 hein, de ce même chapitre, que le verset 14 qu'on n'a pas lu. Il dit, ayons cette même pensée. Voilà. On marche vers le but. Et on cherche à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est un programme immense. Je pourrais encore parler une soirée sur la vocation parfaite en Jésus-Christ. Hein. C'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est un appel. Dieu nous appelle. Quand nous devenons chrétiens, quand nous naissons de nouveau, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est ce qui va terminer ce chapitre, les versets 20 et 21, où Christ qui est dans les cieux, nous attendons, il transformera notre corps, hein, et le rendra dans une perfection ultime quand il sera recréé à sa ressemblance. Mais c'est le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une religion, c'est en Jésus-Christ. Donc il parle de cette perfection. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et Paul ne dit pas j'ai raison, parce que je suis Paul et moi j'ai raison, j'ai le Saint-Esprit, et vous avez tort si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais il entre dans la logique de Christ. C'est Christ qui est la perfection. Et si on a un autre avis que Jésus-Christ est notre perfection, et que nous tendons vers la perfection qui est en Christ, eh bien, Dieu vous éclairera là-dessus. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous vivez la vie chrétienne, pourquoi? Quel est votre but dans la vie chrétienne? Si Jésus-Christ n'est pas le but de notre vie chrétienne, nous nous réunissons souvent comme dans un club. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se réunissent et viennent dans des réunions comme on vient à un club de théâtre, un club de tennis, un club de whist, un club de toutes sortes de choses que vous voulez. Les Anglais ont des clubs pour tout, hein. On les connaît pour ça. Nous, justement, on n'en a pas parce que les Anglais en ont. Donc, on fait. Hein, mais s'il y a une idée un peu farfelue, ben, il y a quelqu'un qui va créer un club en Angleterre et ils vont se réunir et trouver des points communs. Et bon, après tout, hein, s'ils ont envie de se réunir sur une idée bizarre, eh ben, c'est leur problème. Hein. Et puis, comme on dit, on n'y soit qui mal y pense. C'est une devise bien anglaise. Hein. Bon, mais Paul dit, si vous êtes d'un point de vue différent, que Christ est notre vie, que Christ est le but ultime de notre vie, si Christ est tout ce dont nous avons besoin, alors vous avez besoin d'être éclairé, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Et Christ, si vous êtes honnête, si vous cherchez vraiment, il vous éclairera aussi là-dessus. Mais beaucoup de chrétiens ont des dadas, des choses qui les passionnent. Alors, ça peut être toutes sortes de choses très louables. C'est, je sais pas, je veux pas prononcer un mot parce que je voudrais pas que quelqu'un se sente gêné parce que son dada risque d'être touché. Mais c'est bon de se poser des questions et de se remettre en question. Quel est le but de ma vie? Quand je vais à un culte, qu'est-ce que je recherche? Je vais vous dire. Est-ce que vous recherchez la musique? Est-ce que vous recherchez le programme? Si vous ne recherchez pas Jésus-Christ, vous n'êtes pas venu au culte dans un bon esprit. Quand on va à un culte, on va pour rencontrer Jésus-Christ. Et il y a des cantiques, et il y a un programme, et il y a des tout ça. Mais le but n'est pas le programme. Le but n'est pas le message. Le but, c'est Christ. Toujours. C'est recentrer toujours tout sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le but de notre vie. Notre croissance, notre perfection. C'est Jésus-Christ, c'est notre vocation, c'est notre appel. C'est Dieu nous a destinés, nous a prédestinés. Je prononce le mot, hein, le mot. Je crois à la prédestination, mais pas dans le sens calviniste. Je crois que nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Un jour, je rencontrerai Christ face à face. Et je peux dire, c'est le jour que j'attends avec espérance. C'est le jour que j'attends depuis maintenant bientôt 50 ans. Et je peux vous dire, je l'attends, je l'attends. C'est le jour où je vais voir Christ face à face. Je vais vous raconter une petite histoire. Je n'ai pas l'habitude de la raconter. C'est un jour, c'était bien, il y a bien longtemps, on était à Toulouse. On avait une réunion de prière à Toulouse. Monsieur Somerville et Gina doivent s'en souvenir. Et la réunion de prière pour le réveil. Et c'était, si ma mémoire est bonne, entre 6h et 7h, quelque chose comme ça. Et alors, tous les jours où il n'y avait pas une réunion, eh bien, on se réunissait 1 heure et on priait. Et ça, c'était ma réunion. Ah, qu'est-ce que j'aimais cette réunion. C'est, on était vraiment, on était 4 ou 5, hein. Mais c'était vraiment, on y était là pour la prière, hein, pas pour autre chose. Quand on arrivait, on priait. Et on partait, on ne s'attardait pas, on avait prié et on avait autre chose à faire. Et un jour, je vais vous dire que c'est dans un rêve. J'étais dans cette réunion de prière. Et il y a un homme qui est arrivé et il a dit, Jésus-Christ, reviens! Et alors, je peux vous dire, les 4 ou 5 qu'on était, on s'est tous levés, on s'est précipités. Alors, il fallait descendre l'escalier. Il y avait le passage Wilson et le passage Lafayette, et on avait la place Wilson. Et alors là, sur le trottoir de la place Wilson, je cherchais, et là, le premier doute de ma vie, le dernier doute, je peux dire, est arrivé. Est-ce que je vais être enlevé? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais déjà enlevé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu cherches à regarder si tu es enlevé ou pas? Oui, Jésus-Christ! Et je cherchais, Et au moment où j'allais le voir, je me suis réveillé. Ah, je peux vous dire la frustration. Ah, la frustration terrible. J'avais tellement envie de le voir. Et je peux vous dire, je sais ce que c'est que la frustration de ne pas voir Jésus-Christ, alors qu'on attend de le voir, hein, parce que j'attendais vraiment de le voir. Mais c'est quelque chose. Nous sommes appelés en Jésus-Christ, à Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Nous sommes l'héritage de Jésus-Christ. Nous sommes le butin de Jésus-Christ. Nous sommes la part de Christ. Il est un vainqueur. Il a emmené des captifs avec lui. Nous sommes des captifs. Nous sommes les captifs de Christ. C'est comme je vous ai dit, on est esclaves de Jésus-Christ, hein, précédemment. Hein. Mais nous sommes captifs de Jésus-Christ. Et nous attendons de le voir. Parce que c'est notre vainqueur. C'est celui qui a triomphé de notre vie. Qui a triomphé de notre vie de débauche, qui a triomphé de notre péché, qui a triomphé de notre corruption, qui a triomphé de notre moi, qui a triomphé de tout ce qui nous asservissait et qui nous attristait et qui nous pesait dans notre vie. C'est lui qui est notre vainqueur et nous l'attendons. Et si vous êtes sur un autre point, sur ce point de notre avis, alors Christ vous éclairera à un moment ou à un autre. Parce que je peux vous dire, il n'y a pas de joie plus parfaite que Christ. que d'attendre Christ, que de porter le regard vers Christ, d'être attentif à Christ, de faire notre joie de Christ, de regarder Christ dans notre vie, de l'attendre jour après jour, de souhaiter qu'il remplisse notre vie, d'attendre sa voix, de lire sa parole et d'entendre ce doux murmure qui parle à notre oreille, à notre cœur. C'est, vous savez, c'est Paul, quand il dit ces choses, si vous êtes, il le dit avec douceur, il dit, nous sommes parfaits. Nous tous qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Mais si on est dans notre avis, alors je peux vous dire, vous êtes perdant. Il vous manque quelque chose. Il vous manque l'essentiel. Il vous manque de passer une vie de vraie communion avec Christ. Parce que Satan essayera toujours de vous convaincre que votre vie d'indépendance, c'est vraiment là que vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez. Vous menez votre vie comme vous le désirez. Vous choisissez, vous faites vos choix. Bien sûr, on met le 1, on va prier quand même. Hein. Mais quand même, ce sont nos choix. Et si Dieu est de notre avis, eh bien, on l'entendra un autre jour. On aura bienveillance l'écouter. Mais on fera quand même ce que l'on a envie. Mais je peux vous dire, Satan essaye de vous convaincre de ça. Mais il n'y a pas de plus belle vie que de cette vie dans la communion parfaite avec Jésus-Christ, où Jésus-Christ prend la première place, où il est Seigneur de notre vie, où il est tout ce dont nous avons besoin, où il est la joie parfaite, il est l'attente, la communion, il est tout ce dont nous avons besoin. Et même quand vous rencontrez les frères et sœurs, vous rencontrez Christ en eux, et c'est quelque chose de merveilleux. C'est au-delà de toute expression, vous savez. Et je me rends compte que mes mots sont tellement petits et tellement faibles pour décrire quelque chose de si sublime et de si grand et qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer ou penser. Mais je peux vous dire qu'il y a une vie au-dessus et supérieure à une vie matérielle ou une vie où on ne s'inquiète que de si je vais gagner plus cette année, si le 13e mois va tomber, ou si les charges ne sont pas trop lourdes, ou si les impôts, ou si des machins comme ça, ou si on va pouvoir changer la voiture et des machins de ce genre. Mais vous savez, il y a des personnes, ce n'est que ça. Hein, ils ne cherchent pas autre chose. Mais Jésus-Christ, ils ont mis en oubli celui qui est l'auteur de leur salut, celui qui les a sauvés, celui qui les a rachetés au prix de sa vie, celui qui les a tant aimés au point de donner sa vie pour eux. Je voudrais vous convaincre et vous amener à aimer Jésus-Christ plus que tout. Oh, si je pouvais le faire, si je pouvais par des paroles ou par quoi que ce soit vous faire accepter cela, je peux vous dire que je le ferais. Mais je ne peux pas plus que ce que je vous dis. Je compte sur le Saint-Esprit pour mettre sur votre cœur ce désir de connaître Christ et de marcher plus près de lui. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous ne perdrez pas votre temps. Oh, comme le monde va pâlir. Mais ne laissez-le pâlir. Il peut pâlir de jalousie. Il peut être jaloux. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, j'ai vaincu le monde. Vous savez, c'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est quelque chose, vous savez. Christ écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Hein, c'est Jean qui le dit. C'est Jean qui le dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est quelque chose de merveilleux qui dépasse ce que l'on peut imaginer. Et je peux vous dire, ce n'est pas du mysticisme. Quand Christ prend votre vie n'est pas une vie de contemplation. Ce n'est pas une vie inactive. Au contraire, vous êtes hyperactif. Vous avez le souci des choses éternelles. Vous avez des préoccupations qui ne vous font pas perdre du temps à droite et à gauche dans des choses qui insignifiantes ou des choses même coupables. Hein. Et même cette présence de Christ vous garde du péché. Parce que vous avez tellement conscience d'être dans sa présence que le péché, eh bien, vous n'avez pas envie de le commettre dans sa présence. Et puis vous vous rendez compte qu'il vous a tellement aimé et que c'est à cause de votre péché qu'il a été sur la croix et qu'il a payé le prix de votre salut. C'est le péché, on n'a pas tellement envie de le faire. Hein. Oh, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas et qu'on n'a pas la possibilité de tomber. Mais quand on est tombé, on est malheureux parce qu'on se rend compte qu'on l'a fait dans la présence de Christ. Et on n'y persévère pas surtout. Alors, verset 16, soyez seulement au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Voilà. Vous êtes arrivés à un certain point, alors marchons dans un même pas. Et marchons d'un même pas, c'est comme dans une armée. On marche au même pas. C'est-à-dire que si j'avance mon pied droit, mon frère avance aussi mon pied droit et ma sœur et moi, et tous, on marche au même rythme, à la même vitesse. Voilà. C'est une marche militaire. Et c'est en fait, il y a de la discipline. Et une autre chose, c'est que en marchant de même pas, ceux qui sont faibles sont encouragés. Je vais vous dire, nous ne sommes plus à l'époque où on dresse des éléphants pour les utiliser comme bêtes de somme. Mais en Inde, les gens dressaient des éléphants et ils les utilisaient pour toutes sortes de travaux, et de gros travaux. Ils transportaient des troncs d'arbres, ils construisaient des ponts, des routes et toutes ces sortes de choses. Et l'éléphant est un animal très, très, très fort. Si vous savez ce que c'est qu'un bœuf, eh bien, un éléphant, c'est 10 ou 20 fois plus fort qu'un bœuf, hein. Mais quand on attrapait un éléphant sauvage, eh bien, on l'attachait à un éléphant, un vieil éléphant, qui avait vécu des années de travail, etc. Et l'éléphant sauvage finissait par se mettre au même pas que le vieil éléphant. Et en fait, c'est dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Alors bien sûr, au début, il prenait son indépendance, et l'autre marchait toujours au pas qu'il avait appris, qu'il connaissait. C'était une force immense contre une force immense. Mais la force domptée était beaucoup plus forte que la force sauvage, parce qu'elle était mieux nourrie, elle était mieux disciplinée, et elle avait plus de patience. Et elle ne dispersait pas ses efforts dans tous les sens. Tandis que celui qui était sauvage se débattait dans tous les sens et il finissait par s'épuiser. Et au bout d'un mois, d'une semaine, d'un mois, déjà, les choses allaient mieux. Et au bout de quelques mois, eh bien, un éléphant sauvage était devenu un éléphant domestique. Parce qu'il avait marché au même pas que l'éléphant domestique. C'est comme cela. Et nous marchons au même pas. C'est-à-dire que moi, je n'essaye pas de faire des progrès qui vous dépassent et que vous. Hein, je vous laisse respirer ma poussière. Hein. Je ne veux pas faire ce genre de choses. Et je ne veux pas que vous pensiez qu'un chrétien doit faire ce genre de choses. On avance au même pas. On aide nos frères et sœurs à grandir, à arriver à la même stature que nous. Et même, je vais vous dire, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me dépassiez. Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait tous les progrès que je devrais faire. Et j'ai besoin de faire encore des progrès. Et je souhaiterais que mes frères et sœurs dépassent ma vie chrétienne. Et je suis persuadé qu'il y en a qui me dépassent. C'est quelque chose, vous savez, de voir les autres qui grandissent. Parce que on grandit, on donne envie, on donne soif aux autres. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit, c'est la Tsunamite qui dit, je cours. Et puis, quelques mots plus loin, il y a nous courons. Je cours. Nous courons. Alors, elle court sur la muraille de Jérusalem. Et à un certain moment, il y a d'autres qui courent avec elle. Et en fait, dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Si vous courez, vous vous rendrez compte qu'il y en a d'autres qui courent avec vous. C'est parce qu'il y a un effet on donne envie. On donne soif. Hein, nous sommes le sel de la terre. Alors c'est vrai que pour les inconvertis qui nous voient vivre, ils doivent dire, ah mais ça, c'est comme ça que je voudrais vivre. Et je peux vous dire qu'un chrétien qui vit la vie chrétienne comme il faut, droitement, sérieusement, pas des pharisiens, hein, excusez-moi, je ne parle pas ou des piétistes ou des gens qui ont des formes, tout ça, excluons-le, on n'en parle pas. Des gens qui marchent avec Jésus-Christ, qui marche à la lumière de Christ, qui marche dans la douceur de Christ, dans la patience de Christ, dans la bonté de Christ, dans la vie de Christ, eh bien, elle donne envie. Et les inconvertis veulent cela. Et je peux vous dire que le plus grand argument pour amener une âme à Jésus-Christ, c'est de vivre avec Jésus-Christ, et de vivre dans la communion de Jésus-Christ, et de marcher, excusez-moi de le dire comme cela, mais avec le vieil éléphant. Si vous êtes un éléphant sauvage, attachez-vous à Jésus-Christ et il va vous discipliner. Il va vous donner le pas qu'il faut et vous allez être jour après jour dans la bonne direction, dans le bon chemin. Oh, il ne va pas vous dire oui à tout, et même il va vous dire non à beaucoup de choses. Mais il va vous le dire avec amour, avec douceur, avec patience. Et c'est ça la vie chrétienne. Nous tous qui sommes parvenus à la perfection, hein, vous avez un niveau spirituel, alors donnez envie aux autres. Aidez-les à grandir, aidez-les à avoir soif de Christ, à aimer Christ plus que tout. C'est cela le. Et c'est un ministère. Nous croyons que le ministère, c'est d'être évangéliste, d'être pasteur, d'être ceci ou cela. Mais le ministère, c'est d'être un chrétien vivant, un chrétien zélé, un chrétien consacré, un chrétien qui marche avec Christ, un chrétien qui a mis Christ à la première place dans sa vie. C'est cela. Et on donne soif. Et c'est on donne soif aux inconvertis d'être chrétiens, mais on se donne soif aux chrétiens d'avancer avec Christ. Et si il y a beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas, eh bien c'est qu'ils n'est pas, ils ne voient pas un modèle devant eux. Ils ne voient pas, ils n'ont pas une vraie motivation pour avancer dans la vie chrétienne. Et on dit souvent, les églises ne grandissent pas. On grandit en nombre, mais on ne grandit pas en qualité et en maturité spirituelle. Parce qu'en fait, nous qui devrions donner l'exemple, nous qui avons un certain âge dans la vie chrétienne, eh bien, on devrait donner soif. On devrait donner envie d'être chrétien, de marcher dans la vie chrétienne. Il y a, je vais vous dire, j'emploie les mots, mais ce n'est pas le bon mot, hein. On doit avoir la passion de Christ. Alors la passion, hein, pas la passion sur la croix, mais être passionné de Jésus-Christ. Et c'est, on doit donner envie de Jésus-Christ. On doit altérer de Jésus-Christ. Mais souvent, eh bien, nous donnons, nous prédicateurs, nous donnons envie de prêcher. Nous n'avons pas envie de Jésus-Christ. Et c'est là qu'est tout le problème. Les chrétiens viennent et ils disent, on a entendu une belle prédication. Et je crois que c'est la pire chose qu'un prédicateur puisse entendre. C'est si quelqu'un dit, j'ai appris à marcher avec Christ, j'ai appris à connaître Christ, alors vous avez gagné. Vous avez une bonne prédication. Mais nous, on va au sermon. C'est les protestants disent on va au sermon, comme les catholiques ils vont à la messe. Mais les protestants vont au sermon. Et c'est parce que c'est la partie principale du culte. Mais maintenant, ce serait plutôt on va au cantique, parce qu'on a mis tellement de place pour les cantiques qu'il y a beaucoup moins de place pour la prédication. Alors qu'avant, les prédicateurs prêchaient 2 heures. Hein. Je me rappelle de ce prédicateur. Il avait prié toute une nuit. Dans les larmes et vraiment, parce que le lendemain, il devait prêcher. Et le lendemain, il prêche et il a vu des larmes dans les yeux de certaines personnes au bout d'une heure ou 1 heure et demie de prédication. Quand il a vu les larmes, il a prêché 1 heure et demie de plus. Et alors, il y a eu un mouvement et les gens se sont convertis. Il y a 500 personnes qui se sont converties ce jour-là. Ils ont passé 3 heures. Entendre la parole de Dieu, l'évangile. C'est quand on dit à peu près un quart d'heure, les gens ne suivent plus. Bon, peut-être que maintenant on est mal éduqué, mais il y a eu une époque où ce n'était pas le cas. Alors on ne va pas à Jésus-Christ, on va au sermon. Alors bien sûr, le sermon, ben, on est vite rassasié d'un sermon. Mais si c'est Jésus-Christ, si on a entendu le Saint-Esprit nous parler, si on a entendu la voix de Christ, mais ça, on s'en lasse pas. C'est quelque chose de. On va passer l'éternité à entendre Christ et à regarder Christ et à voir Christ. Et on ne sera jamais fatigué. Tandis que ben, les paroles humaines, on a vite fait le tour. Et parfois, certains prédicateurs, vous savez que le prochain mot qu'il va prononcer, parce qu'on le connaît bien, on connaît ses sujets, on sait quelles sont les illustrations qu'il va nous présenter. Et voilà. On peut dire, ah oui, mais là, il va nous parler de ça, et bon, il va dire ça et ça et ça. Un jour, il y avait une rencontre de plusieurs jours, c'était Pentecôte, si je me rappelle bien. ou l'Ascension, je ne me rappelle plus. Oui, c'était l'Ascension, puisque c'était jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, il y avait le jeudi pour arriver, et puis on repartait le dimanche après-midi. Et c'était sur l'évangélisation. Alors, les frères m'ont dit, ah ben, on va y aller. Oh, je dis, mais non, je ne vais pas y aller, je n'ai pas envie d'y aller. On me dit, pourquoi tu ne vas pas y aller? Mais parce que je sais ce qu'ils vont dire. Bah, ils m'ont dit, tu ne peux pas savoir ce qu'ils vont dire. Mais j'ai dit, mais si, je sais ce qu'ils vont dire. Je les connais et je sais ce qu'ils vont dire. Ils vont nous faire parler de, comment dire, de faire des calculs, si on évangélise, si on fait ceci, si on fait ça, telle autre chose, et puis distribuer. Et voilà, donc je vais donner toute. Et quand ils sont revenus, il y en a un, il m'a dit, comment tu savais ce qu'ils allaient dire? Mais je dis, mais je les connais, et je connais leur prédication, et je sais que ça n'aboutit pas. On n'a pas de résultat là. Vous pouvez avoir tous les nouveaux, comment dire, le nouveau processus ou le machin pour avoir une évangéliser le monde, mais ça ne marchera pas. C'est ce qui marche, c'est la prière, c'est Christ, c'est la foi, c'est le zèle pour Christ. Si vous faites du zèle pour de la propagande chrétienne, pour l'évangélisation, c'est de la propagande que vous faites. Vous ne faites pas vraiment de l'évangélisation. Après, je ne veux pas discriminer trop parce que il y a des personnes qui le font de bon cœur, qui le font avec zèle, il n'y a pas de problème. Hein. Je ne veux pas aller trop loin là-dessus. Mais je pense qu'il est bon de réviser ces mobiles et de voir ce que l'on fait. Est-ce qu'on le fait comme de la propagande ou est-ce qu'on le fait vraiment par l'amour des âmes? Avec la puissance du Saint-Esprit, avec tout le zèle et toute la foi d'une vie consacrée à Jésus-Christ. Là, c'est tout à fait différent. C'est autre chose. Il faut bien faire attention à qui nous suivons, vers qui nous portons les regards, qui est le Seigneur de notre vie, qui est notre perfection. Regardez bien, faites attention. Il y a des choses qui prennent une place qu'elles ne devraient pas prendre. Et elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont à la mauvaise place. Par exemple, il y a des gens qui parlent beaucoup du Saint-Esprit. Voilà. Hein, c'est un sujet favori de certaines personnes. Ils vont tout de suite vous parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Mais je regrette. On ne parle pas assez de Jésus-Christ. Je veux bien qu'on parle du Saint-Esprit. Mais on doit parler de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit amène à Jésus-Christ, toujours. Et alors, mais il n'y a pas de mal à parler du Saint-Esprit, mais il y a un mal à le mettre hors de sa place et de lui donner la place qui est à Jésus-Christ. C'est ça. Et je connais, sur quelque chose de beaucoup plus grave, des gens qui parlent toujours du diable. Des chrétiens et de possession démoniaque, de diable, de démons, et comment on les chasse, et comment on reconnaît, et tatati, tatata. Et c'est. Voilà, vous avez. Mais je veux entendre parler de Jésus-Christ. Je ne veux pas entendre parler du diable. Le diable ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Je ne veux pas parler de lui. C'est lui donner trop de place déjà. C'est Jésus-Christ. C'est parler de Jésus-Christ. Je me rappelle. Le plus grand spirite qu'il y avait dans la région de Perpignan, un jour a accepté le Seigneur. Et le Seigneur m'a utilisé pour le faire. Et j'ai parlé avec lui. Cet homme était un homme puissant dans les choses diaboliques. Mais jamais je lui ai chassé un démon. Jamais j'ai invoqué un démon pour le chasser. J'ai parlé de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est irrésistible. Satan est obligé de fléchir le genou. Il est obligé de se sauver. Qu'est-ce que j'ai besoin de chercher à connaître? Quelqu'un qui m'a dit, oui, mais il faut connaître les noms des démons, il faut les appeler par leur nom. Mais je ne veux pas connaître les noms des démons. Je veux connaître le nom de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous avons guéri cet homme. Hein, c'est Pierre et Jean qui avaient guéri et né à la belle porte du temple. Hein. C'est cet homme qui était impotent. De naissance. C'est en son nom. C'est son nom. Ce n'est pas nous. Et on n'a pas besoin de ces choses. Et c'est la puissance du nom de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ. C'est quand on lui laisse toute la place, quand vraiment il a la place. Et si vous êtes sur ce point de notre avis, eh bien Dieu vous éclairera là-dessus. Et je suis persuadé que vous êtes du même avis que moi. Parce que vous savez, le nom de Jésus-Christ, il est irrésistible. Et c'est, on l'aime. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que il est celui à l'ombre duquel nous voulons nous reposer, celui vers lequel nous tournons nos regards, celui qui est notre paix, celui qui est notre joie, celui qui est la douceur même. C'est sa voix qui se fait doucement entendre. Il n'élève pas la voix. Si vous avez quelque chose qui élève la voix dans votre vie, vous n'entendrez plus la voix de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas une voix qui s'élève. Il faut faire taire les autres voix pour entendre la voix de Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. Et vous savez, comme je vous ai dit, l'épître aux Philippiens, c'est l'épître qui nous parle de Jésus-Christ. Et ben, une autre fois, je vous ai parlé de Jésus-Christ après vous avoir parlé pendant des semaines et peut-être des mois de Jésus-Christ. Et bien, on en reparle parce que c'est lui. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à ce nom que tout le genou fléchira dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est dans l'épître aux Philippiens. C'est pas ailleurs, hein? Chapitre 2. C'est la christologie dans l'épître aux Philippiens. Voilà. Le Seigneur vous bénisse.